Madame Julien, aujourd'hui, Monsieur Julien va examiner ce que la Révolution française a laissé à notre ville. Quelle musique illustrera cette émission?
Encore aujourd'hui, et pour finir, Ludwig van Beethoven et des extraits du finale de la 9e symphonie. Tout le monde connaît le motif de l'ode à la joie, qu'on apprenait autrefois dans les écoles, avec des paroles plus ou moins valables, qui ne sont en aucune façon la traduction de l'ode à la joie, mais qui toutes chantent l'espoir en un monde meilleur et fraternel. Cette ode à la joie est un poème du poète allemand Schiller, et Beethoven, dès 1792, forme le projet de l'utiliser dans une œuvre d'importance. Il va mûrir ce projet durant toute sa vie, puisque la 9e symphonie ne sera terminée qu'en 1724, 3 ans avant sa mort. Par ailleurs, il est significatif d'apprendre que les révolutionnaires de Rhénanie, à ce moment-là, ont la coutume de chanter dans leurs réunions sur l'air de la Marseillaise, alternativement un couplet de la Marseillaise et une strophe de l'ode à la joie de Schiller. Beethoven, nous l'avons déjà dit, est profondément républicain et il le prouve. C'est lui qui, le premier, détourne la musique de sa destinée aristocratique pour s'adresser, au-delà du public d'un jour, à toute l'humanité. Son éloquence, dit Émile Villermoz, est simple, puissante, directe. Et en effet, la musique de Beethoven est accessible à la foule, comme le discours enthousiaste et pathétique d'un tribun populaire. C'est pour ces deux raisons, dont chacune pourrait justifier ce choix, que j'ai relevé pour aujourd'hui des extraits du finale de la 9e symphonie, cette cathédrale.
Monsieur Julien, c'est aujourd'hui que vous allez évoquer pour la dernière fois la vie à Saint-Onen pendant la Révolution française.
Oui, et nous aurons consacré 9 émissions à l'histoire de notre ville et de la commune pendant la Révolution française de 1789. C'est sans doute trop, penseront certains auditeurs, pour lesquels l'évocation de cette période, riche et troublée, douloureuse et exaltante, est peut-être insupportable. Mais s'agissant d'une émission intitulée En parcourant les archives, il n'était pas possible, me semble-t-il, d'ignorer la masse de documents conservés relatifs à cette époque et qui n'a de comparable pour nous à Saint-Antonin que la masse accumulée pendant la République protestante. On ne pouvait non plus ignorer que la Révolution a définitivement et inexorablement fixé le destin de notre ville, consacré son déclin administratif et économique déjà amorcé avec la mort de la République protestante. Et cela explique notre situation actuelle. Par les réformes administratives de l'Assemblée constituante en 1790, du consulat en 1801, il faudrait dire de l'an 9, de l'Empire en 1808, notre ville a perdu définitivement son rôle de petite capitale qu'elle avait été pendant des siècles, et elle s'est trouvée marginalisée dans un rôle de chef-lieu de canton sans éclat aux confins du département de l'Aveyron d'abord, puis de celui du Tarn et Garonne ensuite lors de la création de ce dernier en 1808, création fortement approuvée par nos édiles de l'époque qui en attendaient beaucoup de cette création.
Oui, qu'espéraient les élus locaux du rattachement de Saint-Antonin au Tarn et Garonne?
Bien, ils en espéraient ce qu'on espère d'un avenir incertain. Ils avaient bien vu, nos édiles, depuis 1790, que notre ville avait été délaissée, je l'ai dit déjà dans les émissions précédentes, et de cette création du Tarn-et-Garonne en 1808, à laquelle ils ont puissamment contribué par l'action de notre maire de l'époque, le chevalier Pomiès. Ils en attendaient, tenez-vous bien, que Saint-Antonin devienne chef-lieu d'arrondissement. Et nous avons dans nos archives un rapport de 6 pages grand format dans lesquels ces édiles développent les raisons qu'il y avait pour le pouvoir à faire de notre ville un chef-lieu d'arrondissement qu'il n'a pas été. La Révolution a donc passé sur notre ville, dira-t-on, sans rien laisser. Et pourtant, cette période de notre histoire a, elle aussi, marqué de son empreinte notre ville et ses environs, les êtres et les choses. Nous lui devons d'abord notre mairie actuelle, cet ancien couvent des Génovéfains, qui écrase de son énorme masse les petites maisons voisines. Cet édifice, démesuré incontestablement, prétentieux même, eu égard à l'importance bien relative de notre commune, mais, à mon sens, éminemment symbolique de ce caractère très particulier de Saint-Antonin, où le passé toujours s'inscrit dans le présent. Et dans cette mairie, aujourd'hui, se réunit régulièrement un conseil municipal qui, depuis la Révolution justement, a toujours, et depuis la Révolution seulement, comporté un nombre respectable de gens de la terre, de laboureurs, de paysans en un mot. C'est sous la Révolution, je l'ai dit, le 8 décembre 1792, pendant la période la plus révolutionnaire, qu'a été élu, pour la première fois dans l'histoire de notre commune, un maire paysan, rappelez-vous, Tabarly de La Veillerie. Il faudra attendre 1960, je crois bien, ou 61, pour retrouver une situation semblable.
Oui, monsieur Julien, c'est quand même étrange qu'avec une population rurale aussi importante, autant de paysans, conseillers municipaux, il n'y a eu finalement que 2 maires paysans dans l'histoire de Saint-Antonin.
Oui, Tabarly et monsieur René Cavaillé qui... L'été, il y a peu encore, il n'y a eu que 2 maires paysans. Mais n'oublions pas un caractère très particulier de Saint-Antonin. Et caractère que sentent bien les habitants de nos campagnes, dans la commune. Les habitants de nos campagnes disent toujours, parlant de Saint-Antonin, nous allons à la ville. Ils le disent encore. Ça a gardé Saint-Antonin ce caractère de ville et par conséquent de bourg avec des notables. Et personne ne résiste aux notables. Ce sont eux qui tiendront la mairie pendant, et qui la tiennent encore. Mais enfin, cette entrée des paysans dans le conseil municipal à la Révolution est quand même significatif d'un changement économique considérable dans la vie de notre commune, où les activités agricoles et rurales supplantent à ce moment-là, de façon définitive, les activités artisanales et commerciales qui étaient justement celles les plus importantes dans l'histoire de notre ville depuis le XIIe siècle. Saint-Antonin sous la Révolution devient une commune rurale. Et cette prospérité de l'agriculture renaissante se traduit par la mise en chantier de constructions nouvelles, justement dans les grandes fermes, dont les bergeries et les granges spacieuses gardent encore, allez-y les voir, le style de cette époque avec ses larges portails dont le linteau de pierre taillée est un arc à trois centres aux formes douces. On les voit partout, ces grands arcs de pierre. Vous en avez peut-être chez vous, amis paysans qui m'écoutez. C'est l'époque aussi où se construisent, où se reconstruisent ces innombrables moulins à blé qui jalonnent les vallées de la Bonnette, de la Seille, de la Baille, du Charel, là-haut, du côté de Villevaire. Moulins aujourd'hui, malheureusement, presque tous abandonnés et quelquefois ruinés. Quelle prospérité a dû connaître notre région à cette époque pour que tant de moulins s'édifient à cette époque? Enfin, c'est l'époque où s'amorce la rénovation de l'habitat rural, avec ses maisons de ferme, avec leurs balettes au bout d'un escalier de pierre, typique de notre région, et dont on croit qu'ils remontent à la plus haute antiquité. Mais non, ils sont de la fin du 18e et du 19e. Ils vont s'édifier partout dans nos campagnes, jusqu'à l'apogée du Second Empire. C'est seulement au cours des 10 dernières années que nous venons de vivre que cette architecture si typique sera peu à peu remplacée, ici et là, pas partout, par ces vastes bâtiments, au triste toit d'Évrite, le plus souvent. Ces nouvelles maisons de ferme que l'on rencontre ici et là, parce qu'on a voulu se mettre au goût du jour, il y en a, pas beaucoup, rares heureusement, hein, et qui sont d'une attristante banalité. Si dans la ville même, la plupart des activités artisanales poursuivent leur déclin amorcé après la révocation de l'édit de Nantes, si le bas peuple connaît, en raison de la crise financière et des dépenses dues à la guerre, une situation très difficile, certains bourgeois, marchands, maîtres artisans ont su tirer profit de la vente des biens nationaux, du renchérissement des denrées, de la spéculation financière favorisée par la dépréciation des assignats, et aussi des bénéfices confortables que leur procurent les juteux marchés de fournitures militaires, uniformes, souliers, fourrages, grains, réquisitions d'animaux. Cela leur permet à ceux-là de mettre la façade de leur maison au goût du jour, de remplacer les arcades ogivales du rez-de-chaussée par ces larges ouvertures au linteau de pierre taillée avec son arc à trois centres qui porte presque toujours sur sa clé sa date de construction, et à parcourir nos rues, Vous pouvez suivre la période révolutionnaire. Vous lirez ou pourrez lire ces dates. Rue Porte-Rodanaise, tout à fait à son extrémité vers le Vallon, où en 1792 a été aménagé l'ancien couvent des Cordeliers. Au fond de la rue droite, chez Madame Duclos, 1793 rappelle la terreur. Place des Capucins, cette place si longtemps nommée place de la République, mais il vous faudra chercher. La République est évoquée pour la seule fois dans notre ville avec l'inscription l'an 5 DLR qui signifie l'an 5 de la République. Allez rue de la Pélisserie, la maison à Liège, elle a vu sa façade refaite entièrement en l'an 13. Ça fait 1805-1806. Cependant que l'an 12 est inscrit sur une arcade de la boutique Les Beauchoirs, rue Saint-Angèle et Canfin, boulevard de la Condamine, le calendrier grégorien inscrit sa date de remise en vigueur 1806 sous l'Empire. C'est le 1er janvier 1806 que le calendrier révolutionnaire a été aboli. Cependant, et malgré ces quelques vestiges évocateurs, le visage de notre vieille ville change très peu pendant la période révolutionnaire. On se préoccupe davantage des abords. La fermeture du couvent des Capucins a permis à la commune de récupérer les anciens fossés de la ville, sur lesquels sera établie la promenade, nom que porte encore pour les vrais Saint-Antoninois cette partie du boulevard qu'on appelle aujourd'hui avenue du docteur Paul Bénet. Le fossé du Vallon sera comblé à cette époque et deviendra un foirail. Mais la grande affaire reste, pendant la période révolutionnaire, la vente du pré commun, ce vaste pré communal que les vicomtes avaient vendu à la ville en 1169. Pendant 6 siècles, il était resté propriété indivise de tous les citadins, à la fois pâturage libre pour les cochons et chèvres et oies et canards des citadins, et aussi lieu de rassemblement populaire, et aussi lieu de champ de manœuvre des troupes en quartier, puis de la garde nationale. Il avait permis, pendant 6 siècles, aux habitants les plus pauvres de notre ville d'élever leurs cochons et leurs volailles. Mais la révolution bourgeoise de 1789 veut abolir ces servitudes favorables aux pauvres et que supportent mal les riches propriétaires. Ces servitudes, ce sont ces pâturages communaux et le système de la vaine pâture qui permettait à quiconque, après l'enlèvement des récoltes, de mener son bétail packagé sur le territoire d'autrui. En mars 1791, donc, l'Assemblée constituante incite les communes à vendre les terrains communaux. On en parle ici à ce moment-là, mais on ne donne pas suite. Le 10 juin 1793, la Convention sur la proposition de Robespierre décide que si les biens communaux sont partagés, ils devront l'être entre tous les habitants équitablement. Encore quelque chose en faveur de Robespierre, excusez-moi, mais c'est ça. C'était une mesure démocratique, on en conviendra. Et c'est alors que le Conseil général de la Commune décide officiellement à ce moment-là la vente des communaux et d'abord du prêt commun, le point le plus sensible. On se doute de l'agitation que pareille décision a pu provoquer parmi les habitants. Les officiers municipaux sont évidemment indécis et ils s'abritent derrière la loi. Et ils invitent les habitants à se prononcer pour la vente ou pour le partage. Il est évident qu'un partage, même s'il était limité au chef de famille, d'un pâturage relativement peu étendu, était pratiquement irréalisable. On convoque une assemblée générale des habitants dans l'ancienne église des Capucins, place de la République, le 20 Ventose en 3. C'est le 8 janvier 1795. Vous voyez que les choses vont lentement. Il s'est écoulé presque 2 ans depuis la loi. Cette assemblée approuve par 890 voix sur 985 votants la vente de tous les biens communaux en précisant que sur le produit de cette vente sera prélevée la somme nécessaire au remboursement des dettes de la commune qui était lourdement endettée et qui avait des dettes qui remontaient à 1700 et que le restant, ces dettes-là payées, sera partagé également entre tous les habitants. Pour faire taire toutes les oppositions, il avait été décidé que, en vendant le prêt commun, je cite un texte là, on aménagerait de belles promenades en établissant 2 grandes allées en croix de 20 mètres de large. C'est la première fois qu'est employée cette nouvelle mesure. À l'intersection desquelles serait formé un boulingrin, le mot est employé circulaire, de 150 mètres de circonférence. Au bord des allées et autour du boulingrin serait plantée une double rangée d'arbres.
Monsieur Julien, on a vu les Saint-Antoninois préoccupés par les problèmes économiques, politiques et les guerres. Pendant toute la période de la Révolution.
Certes, oui.
Et c'est surprenant de les voir en même temps se préoccuper de l'esthétique de la ville et puis du plaisir des Saint-Antoninois, leur créant des promenades, ces grandes allées, ce boulingrin.
Mais ça rejoint ce que je disais un peu plus haut, quand les édiles de Saint-Antonin, même à cette époque de mouvementé, ont des ambitions. Ils ne désespèrent pas de voir leur ville devenir à nouveau une belle capitale. Or, une capitale, il faut que ce soit présentable. Donc, il faut des avenues comme en avait Montauban, comme en avait Caussade, comme en avait Villefranche, comme en avait Rodez. Il faut des avenues, des promenades, des choses de beau. C'est pour faire un petit peu tape à l'œil, si on peut dire. Et ils ne négligent donc pas ce qu'on peut appeler l'urbanisme. Hein, ils ne le négligent pas.
Oui, mais il n'est pas, tout le monde le connaît, le prix commun, il n'est pas immense. Alors en faisant 2 allées de 20 mètres large et un boulingrin de 150 mètres de circonférence, on prenait presque toute la place, non?
On prenait une bonne partie de la place. D'ailleurs, l'allocation de l'herbe des allées va encore durer une cinquantaine d'années. Ça veut dire qu'elles avaient une grande surface puisqu'on en a fermé la coupe de l'herbe. Mais attention, regardez bien le prix commun. Si vous voulez voir, et son étendue est certes relative, mais voyons, pour vous figurer une allée, vous allez la retrouver très bien. La grande allée nord-sud qui coupait le pré commun en deux dans le sens de sa grande longueur. Elle partait de la maison Vigne pour aboutir à la maison Castex. C'est sur une allée du pré commun que sera construite la maison Vigne et vous avez la largeur de l'allée en prenant toute la maison Vigne et les deux sentiers qui sont de part et d'autre de cette maison. Voilà cette grande allée. Pour trouver l'allée transversale qui coupait celle-là, il faut prendre la maison qu'occupe aujourd'hui Madame Vergne sur la route de Caylus. Là. Et alors, il restait 4 quartiers du pré-commun qui étaient très importants. On y fera 100 parcelles, je le dirai dans un moment. Et sur ces 100 parcelles, on pouvait quand même, s'il y avait 100 parcelles, elles étaient cultivables, à ce moment-là, un jardin ou autre, constructible peut-être. Mais enfin, la vente du pré-commun, elle intervient en floréal en 3. Il a été divisé en 100 lots. Cette vente produira la somme considérable pour l'époque de 335 344 livres. Vous voyez que les enchères ont monté. Hein. Qui, cette somme, si on déduit les frais d'arpentage, parce qu'il a quand même fallu borner tous les lots, les frais d'administration, les salaires des préposés à la vente, et enfin la somme nécessaire à l'extinction des dettes de la commune qui avoisinait 40 000 livres, cette somme considérable permettra de répartir, exactement, nous avons les comptes, 315 667 livres entre tous les habitants de la commune, à raison de 55 livres par tête, ce qui nous permet évidemment, en faisant une simple division, de chiffrer la population de la commune à cette époque à 5 740 habitants.
Oui, dans ce chiffrage, est-ce que tout le monde est pris en compte, les enfants par exemple?
Absolument.
Parce qu'on avait parlé de nombres plus importants que ça.
Ah oui, à une époque, quand ils demandaient à être chef-lieu de district ou chef-lieu d'arrondissement, là les édiles n'hésitent pas. Ils nous disaient qu'il y avait dans la ville près de 4000 habitants et que la population totale de la commune avoisinait les 6, 8, ils sont même allés jusqu'à 10 000 habitants, ne l'oublions pas. Mais méfiez-vous des rapports des officiers municipaux, ils sont toujours mensongers. Quand il s'agit de se promouvoir, on a beaucoup d'habitants. Quand il s'agit de payer des charges ou des impôts, des charges financières ou des impôts, on n'a pas beaucoup d'habitants. Là, c'est irrévocable. On fait une division, 5 740 habitants.
Oui,
il faut préciser une chose, quand même, pardon. Hein. Il faut préciser une chose, c'est que là ne sont pas compris les militaires qui étaient volontaires dans les armées, et il faudrait peut-être ajouter entre 300 et 500 habitants pour avoir le chiffre exact, c'est-à-dire environ 6 000.
Oui, est-ce que vous pouvez nous fournir un élément de comparaison pour que nous puissions apprécier cette somme de 55 livres distribuée à chaque habitant de
oui,
la commune?
Oui, voilà, mais c'est une bonne question. En l'an 3, après les lois du maximum et autres, le salaire maximum d'un ouvrier qualifié, je veux parler par exemple d'un forgeron, d'un tailleur d'habits, d'un cordonnier, était d'une livre par jour. Donc, 55 journées de travail, presque 2 mois de salaire d'un ouvrier qualifié. Je précise que c'est l'une des dernières fois d'ailleurs que les comptables utiliseront l'unité monétaire de la livre. Déjà dans d'autres comptes, on voit apparaître le franc. Et la révolution a eu aussi ses conséquences, c'est que dans notre pays même, vous avez des allées du prêt commun mesurées en mètres, la monnaie comptée en francs. C'est l'apparition du système métrique.
On a fait la conversion une livre en franc.
Exactement. On n'a changé que de nom. Et pendant longtemps, d'ailleurs, il y a eu équivoque sur les deux. On prononçait franc, on écrivait livre. On écrivait franc et on prononçait livre. Les deux unités sont absolument égales en valeur. Bon, eh bien, à partir de ce moment, donc, de cette vente du prêt commun, notre ville disposera à ses portes comme une véritable capitale. Voilà la raison d'une promenade ombragée où se tiendront, nous l'avons vu la dernière fois, les plus prestigieuses fêtes civiques jusqu'à 1799.
Thank you.
Cette mesure d'urbanisme que représente le lotissement du pré commun, qui est la plus hardie et la plus intelligente jamais réalisée à Saint-Antonin, aurait pu être l'amorce du développement futur de la vieille cité par la construction d'un quartier moderne. Dans cet ensemble, si bien ordonné avec ses voies de circulation centrales et périphériques. Malheureusement, en 1838, un maire pour le moins mal avisé, le notaire Bromé, un notable, obtiendra du conseil municipal la vente des allées du pré commun, interdisant à jamais l'extension rationnelle de notre ville dans le vallon. Sans cette erreur, nous n'aurions point à déplorer aujourd'hui l'agression du noble val que constitue, qu'on le veuille ou non, l'implantation du lotissement rodanaise et le mitage de tout le vallon. On mesure à ce détail la gravité des conséquences d'une décision d'une assemblée municipale. Et la commune possédait d'ailleurs d'autres communaux, hein, il n'y avait pas que celui-là. Ils étaient très étendus, ceux-là, on les appelait des fraudes. Il y avait le fraud de Rodanèse, le fraud d'Anglard, vous voyez où c'est tout ça, c'est le roc des Miers, c'est la falaise d'Anglard et le dessus, le fraud d'Argaliol, de Pélof et de Bouissette, là-bas, tout à fait au fond de la commune, vers Penne. Ils seront vendus sous l'Empire, ceux-là, vers 1810-1813. Mais là, on ne répartira pas le produit de la vente entre les habitants. Le régime a changé. Mais seul le fraud de Bouissette, qui est aujourd'hui une forêt communale, j'espère que tout le monde le sait, sera fermé. Il ne pourra pas être vendu parce qu'il y aura contestation avec la commune de Penne et il sera vendu aux cultivateurs de brousse. On sait aussi que notre commune a pu, il y a quelques années, récupérer le fraud de Rodanèse, le roc des Miers, et une petite partie du fraud d'Anglard au bord de la falaise. Je précise aussi, s'il y avait par hasard un auditeur de Casal qui m'écoute, que c'est à cette époque-là aussi qu'a été vendu le fraud de Casal, et qu'il suffit de consulter le cadastre de la commune de Casal pour voir que cette immense étendue du fraud de Casal a été partagée entre tous les habitants de Casal à cette époque-là, et la division s'est faite géométriquement par parcelles parfaitement rectangulaires, hein, et que la grande route qui passe à côté de la ferme de Monsieur Courteau était la route de service du fraud de Casal. Autre chose dont étaient soucieux les officiers municipaux de Saint-Antonin, ils sentaient que le Saint-Antonin était une ville isolée, sans communication. Alors, ils vont s'employer autant qu'ils pourront, autant que seront grandes les influences dont ils peuvent bénéficier, à obtenir du gouvernement la construction de routes carrossables qui faisaient défaut pour notre ville. C'est de cette époque que date la construction de la côte de Sainte-Sabine actuelle et la réfection de la côte de la Maladrerie. Ce sont les derniers tronçons de ce qu'on voulait être alors une grande route de Cahors à Albi, et mieux même, de Paris à Perpignan, excusez du peu. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'à cette époque-là, les ponts sur l'Aveyron étaient rares, et que Saint-Antonin avait la chance d'avoir un pont. Entre Laguépy et Montauban, et Albias, pardon, il n'y avait que le pont de Saint-Antonin pour franchir l'Aveyron. Donc on pouvait y faire passer une grande artère. Cette liaison ne sera achevée qu'en 1814-1818 par la percée du boulevard des Termes actuel, au bord duquel nous sommes. Conscient aussi de la menace que fait peser sur l'avenir de notre commune la mise à l'écart de notre ville des grands courants de circulation, sa déchéance administrative, les élus municipaux applaudiront, bien sûr, au coup d'état du 18 Brumaire, qui sonne le glas de la Révolution, par cette déclaration que je relève sur le registre. Tous les genres de sacrifices et de pertes suscités ou occasionnés par la Révolution ont été faits et supportés à Saint-Antonin avec le plus grand dévouement. Et ce n'est que depuis les immortelles journées de Brumaire qu'il est permis à cette commune de concevoir l'espérance de retirer quelque avantage du nouvel ordre de choses. Cette flagornerie courtisane à l'adresse du pouvoir fort du César moderne restera sans effet, nous le savons aujourd'hui. L'avenir d'une ville dépend de l'aptitude de ses dirigeants à se montrer dignes et forts et résolu envers l'adversité, et non point à attendre du pouvoir qu'il assure son salut, quelles que soient les preuves de soumission qu'on lui donne. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, chers auditeurs qui avaient bien voulu nous écouter, cette chronique de l'histoire de notre ville que nous avons voulu arrêter à cette date du coup d'État du 18 Brumaire de l'an 8.
Monsieur Julien, le très grand travail que vous avez fait pour réaliser cette chronique a été fait comme tout celui que vous faites pour Saint-Antonin avec beaucoup de discrétion. Avec tellement de discrétion que seuls les fidèles auditeurs de l'émission, en parcourant les archives, auront pu se rendre compte de l'immense cadeau que vous venez de faire à eux d'une part, mais aussi à Radio Nobleval et certainement à Saint-Antonin. Ce cadeau, il était entouré d'un très beau ruban, et c'était Madame Julien qui nouait autour de chaque émission cette faveur, en choisissant avec tout son talent et sa sensibilité la musique qui illustrait vos propos, tantôt pour créer une certaine ambiance, tantôt pour apporter des arguments, ou tout simplement pour être agréable aux oreilles des auditeurs et les rendre ainsi plus attentifs à votre récit. Madame Julien, Monsieur Julien, je voudrais que vous sachiez que nous sommes tous très fiers que vous ayez accepté de collaborer depuis plus d'un an à notre radio, pour nous aider à atteindre l'objectif que nous étions fixés, celui d'évoquer la vie d'hier et d'aujourd'hui de notre village. Fiers, nous le sommes également en pensant que, et bien sûr, grâce à vous, c'est sur nos ondes qu'a été réalisée la plus complète et la plus importante histoire de Saint-Antonin. Je n'aime pas parler de moi à la radio, mais comment autrement vous dire que je garde un merveilleux souvenir, celui de nos vieilles sombatros, il y a quelques années où j'étais élève au CEG de Saint-Antonin, et où, un soir par semaine, monsieur le directeur venait nous raconter l'histoire de Spartacus et des Misérables. Ces moments privilégiés, je rêvais de les faire partager. C'est maintenant chose faite avec l'émission en parcourant les archives, grâce à laquelle j'ai eu l'immense plaisir de retrouver votre talent de conteur, et en même temps de satisfaire une curiosité beaucoup plus récente, celle de l'histoire de Saint-Antonin. En conclusion, Madame Julien, Monsieur Julien, au nom de tous mes amis de Radio Nobleval, je voudrais vous témoigner notre profonde gratitude et vous dire que si un jour, ce grand travail réalisé pour préparer cette émission hebdomadaire vous donnez envie d'écrire une histoire de Saint-Antonin, eh bien, je ne regretterai plus du tout de vous avoir parfois tourmenté. Enfin, permettez-moi aussi de vous dire que notre grand plaisir serait de vous retrouver un jour sur les ondes de Radio Nobleval pour une nouvelle émission en parcours à les archives.
Que dire après cela, Patrick? Sinon que nous sommes en train d'une grande émotion.